rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, rencontre avec la maire de Vaux-en-Velin dans le département du Rhône, Hélène Geoffroy. L'ex-secrétaire d'État à la politique de la ville revient notamment sur les dispositifs d'aide mis en place en cette période de confinement liée à la crise sanitaire. La maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy.
Dans notre ville, ça a été tout de suite pour l'ensemble de l'équipe un sujet de préoccupation important. Comment s'assurer que les personnes les plus vulnérables, soit parce qu'elles sont les plus âgées, soit parce qu'elles sont en situation de handicap, soit parce qu'elles sont isolées aussi, comment s'assurer qu'on puisse les toucher le mieux possible. Nous avons d'abord travaillé avec nos services sociaux, centre le CCAS de la commune, à rappeler, faire aller parfois jusqu'à domicile pour essayer de s'assurer que les conditions de vie étaient satisfaisantes. Nous avons proposé un portage de repas qui soit étendu à toute personne qui en ait besoin, ainsi que de l'aide aux courses, c'est-à-dire que l'on fait les courses à la place de celles et ceux qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont toutes sortes de difficultés. Mais désormais, nous sommes allés plus loin en demandant, en lançant un appel finalement à toutes les forces vives de la ville et aux habitants en général pour leur demander de pouvoir s'assurer que dans leur allée, dans leur lotissement, bref, dans leur voisinage immédiat, que les habitants, que leurs voisins n'avaient pas de soucis particuliers, n'étaient pas isolés, en leur demandant de nous rappeler. Parce que la difficulté, effectivement, quand quelqu'un est en difficulté, c'est de pouvoir bien l'identifier et qu'il puisse être, avoir accès à l'information. Et parfois, les gens qui se sont repliés chez eux ne savent même pas que les dispositions existent. Donc ça, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, identifier, faire remonter l'information, puis ensuite nos services les traitent, parce que nous avons toujours des agents municipaux, évidemment, mobilisés et sur le terrain. Et puis, nous avons aussi regardé de près la question de l'aide alimentaire, parce que, vous savez, avec le confinement, un certain nombre d'épiceries sociales et solidaires n'ont pas pu continuer leur fonctionnement. Et il a fallu s'assurer cette continuité essentielle. Donc un service qui continue à accueillir deux fois par semaine des personnes sur rendez-vous pour qu'elles puissent recueillir cette aide, ces bons alimentaires. Et puis également, nous avons de nouveaux publics qui rentrent, par exemple, ce sont les familles. Vous savez, pour celles et ceux qui payaient des tarifs de cantine les moins chers possibles, on peut se retrouver, quand on fait deux repas par jour que l'on finance, en difficulté finalement. Donc c'est aussi un sujet préoccupation. Et puis évidemment, nous avons regardé les questions de santé. Avec l'association des professionnels de santé de la ville, une plateforme téléphonique a été mise en place, accessible à tous les Vaudais, qui lorsqu'ils pensent qu'ils ont les symptômes du Covid-19, qu'ils n'arrivent pas à joindre leur médecin traitant, qu'ils puissent appeler cette plateforme. Et il y a des plages de rendez-vous dédiées, donc où les médecins, les professionnels de santé sont bien protégés et peuvent recevoir les personnes avant finalement que s'entrent tous aux urgences. Donc un diagnostic qui est fait en amont. Et donc, c'est autant de choses mises en place sont mises en place aussi parce qu'à la fois le service public est bien présent, celui de la ville, de la métropole de Lyon, mais aussi des services de l'État, et aussi parce que les habitants ont fait montre de cette solidarité qui existe toujours dans les quartiers populaires. Et bien, elle est toujours aujourd'hui très présente et s'exprime fortement. Tout le monde, je reconnais, beaucoup de gens s'inquiètent de ce qui arrive à leurs voisins. Beaucoup de gens nous appellent parce qu'ils veulent rendre service. Donc c'est aussi l'aspect aussi dans la crise qui permet de faire sortir des choses aussi des habitants, des élans de solidarité très positifs.
Vous êtes marqué aujourd'hui par ces élans de solidarité.
Oui, parce que c'est vrai que dans nos banlieues sont, et encore là dans la crise, ont été stigmatisées. C'est vrai que cela m'a agacée. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas respecté le confinement. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai que dans les banlieues. C'est vrai ailleurs, et que ma police municipale verbalise aux côtés de la police nationale et qu'on on a une attitude très stricte, évidemment. Moi, je n'hésite pas à ce qu'il y ait des verbalisations pour faire respecter le confinement, c'est protéger tout le monde. Surtout que dans des villes populaires, il y a souvent des prévalences de facteurs d'aggravation entre le diabète, tout ça, on a cela plus qu'ailleurs parce qu'on a une population qui a connu de la précarité plus qu'ailleurs. Donc on sanctionne. Mais à côté de cela, c'est dans les banlieues aussi qu'habitent celles et ceux qui font tourner le pays. C'est dans les banlieues que vous avez ceux qui travaillent dans les supermarchés, ceux qui sont livreurs, ceux qui sont dans les transports, qui conduisent les bus et les métros, enfin, les soignants aussi sont dans nos banlieues. Et donc, ils contribuent à faire tourner le pays. Et je trouve que c'est bien aussi de dire cela. Et donc, ils contribuent à faire tourner le pays. C'est la première des solidarités. Et puis aussi, il y a cet élan et cette envie de faire. Là, bientôt, on va organiser un réseau de couturières, parce que ça se fait un peu dans toutes les villes. Mais moi, j'ai beaucoup de demandes d'habitants et d'habitantes qui veulent coudre des masques pour préparer, peut-être, nous préparer peut-être lorsque viendra le temps du déconfinement. Donc, c'est aussi ça, nos villes. Et je voulais aussi le dire aux côtés des difficultés que l'on connaît et des problèmes.
Et cette période de confinement, elle met en lumière aujourd'hui les inégalités.
Oui, bien sûr qu'il y a des inégalités. Alors, il y a l'égalité face à... Enfin, on peut tous être frappés, on s'en est rendu compte, nul n'est épargné. Mais évidemment, lorsqu'on est dans une résidence secondaire au bord de la mer, ou lorsqu'on est dans un immeuble où la taille de l'appartement peut être plus petite avec une famille plus nombreuse, forcément que le confinement ne se vit pas de la même façon. Mais un autre sujet plus prégnant, c'est celui de l'école à la maison. Les parents sont très mobilisés. Nous avons à Vaux-en-Velin un conseil de parents d'élèves élus très actif. Et donc les parents nous font aussi remonter ce qui se passe. Donc l'école, l'éducation nationale est très mobilisée, a mis beaucoup de moyens à disposition. Mais c'est vrai qu'il faut accompagner plusieurs niveaux, parfois dans la même famille. On a un enfant, des enfants primaires, à la fois au collège. Et donc ça demande une mobilisation des parents. Donc les parents répondent présents. Mais c'est vrai aussi qu'ils nous disent que ce n'est pas si simple que cela. Et l'on s'inquiète, hein, parce que j'ai des liens assez réguliers avec les maires de France de banlieue, on s'inquiète aussi en sortie de déconfinement, des ruptures qu'il pourra y avoir. Et puis il y a une partie des enfants que l'éducation nationale a du mal à tenir dans un cadre régulier d'éducation, de formation. Donc ça veut dire aussi des moyens qu'il faudra mettre en place pour permettre de rattraper, de soutenir. Hein, c'est vraiment un sujet pour la période des vacances scolaires qui approche, puisque nous sommes la dernière zone, ce sera la semaine prochaine sinon les vacances scolaires. C'est vrai que pour le temps des congés, on prévoit aussi à la ville de Vaux-en-Velin des temps d'animation, aussi par vidéo évidemment, pour que là où l'enseignement ne sera plus présent puisque c'est les vacances, on ait aussi des activités culturelles, sportives, culinaires peut-être à proposer aux jeunes et aux jeunes qui sont chez eux, pour aussi aider les parents dans les activités, en dehors évidemment des jeux en ligne et des jeux qu'on peut faire, pardon, et des plateformes de films et téléfilms, etc., qu'on soit en capacité de proposer d'autres choses. Parce que ça va être un des sujets, effectivement, de préoccupation. Comment la question de l'école a pu être traitée dans tous les milieux.
Il y a d'ailleurs eu, sur ce sujet, un appel de différents élus. Alors là, cela se passe dans la région parisienne. Différents maires ont interpellé le ministre de l'Éducation nationale pour lui demander que cette crise sanitaire n'aggrave pas la crise scolaire.
Je n'avais pas suivi cet appel, mais c'est vrai que c'est une préoccupation qui va être celle de tous nos quartiers populaires et sûrement aussi... Les plus ruraux aussi, hein, il peut y avoir des questions de connexion également, parce qu'effectivement, quand tout est fait sur numérique, nous, on n'a pas de problème en termes de câbles, de fibres, etc. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'a pas un abonnement suffisant. On s'en rend compte aussi dans la pratique, n'a pas le matériel toujours, doit le partager avec plusieurs. Et donc quand les cours sont tous à la même heure et qu'il y a un seul ordinateur dans une fratrie, pour une fratrie, ça peut être compliqué. Si en plus les parents sont un des parents est en télétravail et a besoin de l'ordinateur dans la journée. Et donc les enseignants se trouvent à gérer cela. Donc les collectivités locales, nous avons accompagné et nous allons continuer à le faire, hein, sur les questions, quand c'est possible, de tablettes ou d'ordinateurs mis à disposition en lien avec l'éducation nationale à leur demande. À Vouhenvelin, sur la question du primaire, l'éducation nationale a beaucoup privilégié le fait de photocopier régulièrement pour une semaine l'ensemble des cours, les envoyer par la poste. Vous voyez, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. Des tablettes, en revanche, ont été plus données aux collégiens. Donc, on s'adapte. Voilà, mais donc, comment dirais-je, les partenariats sont bons entre toutes les institutions, mais n'empêche que l'inquiétude effectivement existe sur la façon dont l'école a pu se faire à la maison. Et si on ne va pas se retrouver avec des difficultés plus grandes en sortie de déconfinement. C'est une réelle inquiétude. Et donc, je partage sûrement ce qu'ont dû dire mes collègues maires d'Île-de-France. Hein. Ils ont dû avoir la même retour.
Et vous avez souligné un élément important. Ce sont notamment les habitants des quartiers populaires qui assurent aujourd'hui la continuité de l'État. C'est aussi eux qui sont applaudis chaque soir à 20h et eux qui sont parallèlement parfois stigmatisés.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut le rappeler. Et même si on voit les difficultés que nous pouvons avoir dans nos quartiers populaires, notamment sur le champ de la sécurité, hein, puisque c'est un sujet effectivement qui existe, pas que dans les quartiers populaires, mais qui existe aussi, il ne faut pas oublier la façon dont ils sont mobilisés. Parce que une partie des métiers qu'ont les habitants de nos quartiers populaires ne sont pas des métiers qu'on peut faire en télétravail. Je parlais des métiers de transport, d'entretien, les soignants, les supermarchés, les métiers de la distribution, tous ces métiers qui sont de policiers aussi, tous ces métiers de boîte de sécurité, tous ces métiers qui sont identifiés aujourd'hui comme étant ceux... Alors les soignants, c'est la première ligne, mais les autres sont les métiers dont le ministre de la Santé parle comme des métiers de deuxième ligne. On voit bien qu'ils sont essentiels parce que sinon on ne peut pas aider la première ligne. Et il faut pouvoir aussi le dire et le redire. Et j'insiste, c'est vrai, chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir, j'insiste effectivement sur ce point-là.
Vous, en tant qu'élu, en tant que maire de Vaux-en-Velin, vous êtes aussi en première ligne. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par les services de l'État aujourd'hui ?
On est aujourd'hui dans une collaboration vraiment qui a dû gagner en adaptabilité. C'est un nouveau terme, mais en souplesse, parce que les consignes évoluent, la connaissance du virus du Covid-19 évolue, plein de pratiques partout. Et c'est vrai que moi je trouve que ça a plutôt resserré des liens. Les contacts sont réguliers avec les différents services de l'État. De ce point de vue-là, je trouve que les choses s'organisent le mieux que l'on puisse faire dans un contexte qui est compliqué. Ensuite viendront les questions et le sujet sera celui de l'après-confinement. Quand il faudra évidemment qu'on transforme des priorités, je pense au niveau national et dans ce que nous aurons à reconstruire après. Mais je crois que chacun s'est accordé à le dire. On va devoir réfléchir à la façon dont notre modèle de société doit évoluer.
Le mois de Ramadan approche, c'est un moment particulièrement important pour les Français de confession musulmane. Comment travaillez-vous avec les organisations musulmanes locales pour la préparation de ce mois ?
C'est vrai qu'on a un travail, enfin on a une relation en tant que maire avec les cultes de la ville, hein, et c'est vrai que les relations sont fluides. Sur la question du ramadan à proprement dit, pour l'instant, la première étape est de savoir, et ça, tout le monde est un peu dans l'attente, puisque l'ensemble des cultes a dû arrêter la pratique dans les lieux de culte, hein, donc c'est vrai, a dû retravailler la façon dont s'effectue la pratique religieuse. Aujourd'hui, comment dirais-je, les réponses étaient suspendues à la décision de date de fin de confinement, hein, puisque c'est la première chose à savoir, puisque le ramadan commence après le 20 avril, et donc la question était la première, était de savoir est-ce que finalement nous sortons du confinement ou pas. clairement, je pense, nous n'en serons pas sortis, au moins pour le début de la période du Ramadan, puisque l'Élysée a annoncé, nous en saurons plus lundi soir, que le confinement se poursuit. Et donc, il y a deux, trois sujets pratiques, en dehors de la question qui est celle de la pratique du culte, qui relève des autorités, évidemment, religieuses. Il y a tout ce qui se fait de tradition, de vente de produits spécifiques pour la période du Ramadan. Et c'est un sujet sur lequel... nous avons commencé à nous pencher, quelle réponse apporter, puisque tout ce qui est marché, tout ça n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, ça fait partie des sujets qui vont nous concerner directement dans la relation. Parce que la question, et c'est ce qui est demandé, puisque c'est un sujet, pour le coup, suivi par le ministère de l'Intérieur et dans les relations qu'il a avec les cultes, et la question qui est posée concrètement, c'est comment adapter sa pratique religieuse dans un contexte à ce point inédit. Donc c'est un travail qui évidemment est devant nous. L'autre sujet qui va être peut-être présent, c'est comment, alors que c'est un temps un peu comme celui que nous allons connaître de Pâques ce week-end, un temps de partage entre les familles, aussi que les familles vont devoir rester dans ce cas-là sûrement séparées. Et donc c'est tout un sujet aussi que vont devoir travailler les autorités, pour le coup religieuses, et moi la mère que je suis. Et moi en tout cas, je serai évidemment comme chaque fois à l'écoute et facilitatrice de ce qui peut permettre d'avoir des solutions les mieux organisées possibles. Et dans le champ qui me concerne, le sujet je pense qui va être celui de tous les maires, va être comment les produits, où on peut avoir accès à des produits, chez quels commerçants, puisque souvent il existait des marchés, des possibilités de vente qui ne pourront plus exister cette fois-ci.
Et vous participiez les années précédentes aux iftars, à des iftars, les repas de rupture du jeûne.
Vous avez raison de le rappeler, des repas qui sont une tradition sur la ville et sur la métropole de Lyon, qui étaient les repas, voilà, je parlais des repas de famille, mais aussi les repas qui sont faits avec les autorités, comme l'on dit. Et c'est vrai que c'est des moments de rassemblement, parce que dans notre ville, c'est aussi le moment où l'ensemble des cultes sont présents, des associations aussi de la ville, et c'est des moments de partage, ce sont des moments de partage très appréciés. Et qui permettent aussi un temps de rencontre que je trouve toujours intéressant, parce qu'il dit quelque chose d'une possibilité d'une société plus fraternelle. C'est le moment aussi où ces messages de fraternité passent, où l'on redit l'importance du travail aussi entre les cultes et la République, entre les Français évidemment, enfin le culte musulman et la République. C'est le moment où on dit des choses aussi toujours très fortes, et on réaffirme au travers du principe de laïcité, le principe aussi de la liberté, de l'expression religieuse. Donc ce sont des moments importants et fraternels. J'insiste toujours beaucoup là-dessus quand j'y suis, parce que c'est ce dont souvent nous avons le plus besoin dans notre société, dans notre triptyque républicain, c'est de faire vivre le mot de fraternité. Et c'est des moments importants pour cela, et des moments qui ne pourront donc pas être organisés, étant donné que nous ne pouvons pas... nous rencontrer.
Et vous pourriez imaginer des échanges par visioconférence lors de ces moments ?
Pourquoi pas ? C'est vrai que je n'y ai pas pensé, je vais être honnête avec vous, c'est pas une idée que j'avais pensé, mais en tout cas si le culte organise quelque chose à un moment, culte sur la métropole chez nous, pourquoi pas ? En tout cas, ça fera partie de ce qui... parce que moi, je suis attachée toujours à redire, pour les fêtes importantes, puisque nous avons des trois cultes monothéistes sur la commune, pour les fêtes importantes, aller signifier chaque fois, souhaiter bonne fête aux fidèles. Voilà, pour moi, c'est quelque chose aussi qui marque la reconnaissance que nous avons... des croyants dans la ville et des non-croyants, évidemment. Et que c'est important de reconnaître chacun dans son... en étant toujours évidemment attaché à notre laïcité, c'est essentiel, à la séparation, mais la séparation, comment dirais-je, des églises et de l'État n'entraîne évidemment pas le fait qu'on ne partage pas et qu'on ne vive pas des choses ensemble.
C'était la maire de Vaux-en-Velin, ex-secrétaire d'État à la politique de la ville, Hélène Geoffroy. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et prenez soin de vous.
Rencontre sur Radio Orient.